Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Voilà Contre-Histoire. Contre-Histoire se replonge aujourd'hui dans le nucléaire. Faudrait pas que le Covid nous fasse oublier cette horreur-là et que le pouvoir en profite pour nous faire des centrales nucléaires dans le dos, hein? C'est d'ailleurs ce qu'essaie de nous faire Macron, qui projette seulement 6 centrales nouvelles. Nouvelles, ça veut dire la dernière génération, c'est-à-dire... L'EPR, si je ne me trompe, qui veut installer à Flamanville, bien sûr, à Gravelines encore, et au Tricastin, où il n'y a plus grand-chose qui marche. Bon. Alors, on récupère pète pour nous remettre dans l'ambiance. Ça fait plus de 40 ans, quasiment 50, oui, bien sonné, qu'on utilise des réacteurs nucléaires civils. Actuellement, 443 de ces réacteurs sont en fonctionnement dans le monde. Et seuls 2 accidents catastrophiques ont eu lieu. Aucun risque d'accident nucléaire en France. Circulez, braves gens! À Tchernobyl, la technologie du réacteur était dépassée et le personnel était mal formé. À Fukushima, la centrale était dans une zone sismique et le risque de tsunami mal pris en compte. Rien de tout ça ne pourrait arriver en France, pays qui compte la plus grande concentration de réacteurs nucléaires au monde. Le personnel y est suffisamment formé et les centrales doivent respecter des règles strictes. La preuve, il n'y a jamais eu d'accident nucléaire sérieux en France. Ah oui? Sauf bien sûr Saint-Laurent-des-Eaux, en 1969 et en 1980, avec fusion du cœur, s'il vous plaît. Mais ça, personne ne le sait. Ou encore Aublaillet, en 1999, après la tornade dont on se souvient à elle seule. Et on a oublié que la centrale du Blayais avait manqué sauter pour la simple raison, comme tous les accidents nucléaires, qu'on ne pouvait plus la refroidir. On ne pouvait plus refroidir parce que tout était noyé. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Bon. Et si vous voulez vous faire peur, demandez à Wikipédia les dates et lieux des accidents nucléaires en France. Vous allez passer un bon moment. Et ça vous assurera un succès de société absolument fabuleux. Mais tout ça, c'est vieux et oublié. Rien n'est simple. Le risque terroriste est totalement sous-évalué en France. Depuis 2015, 34 attentats ont eu lieu en France. Et les terroristes s'intéressent de près au nucléaire. Or, un attentat dans une centrale nucléaire causerait des dommages monstrueux. Les morts se compteraient en milliers et la contamination rendrait inhabitable une partie du territoire national pour des décennies ou pire. Pourtant, les installations nucléaires françaises demeurent mal protégées. Aucun site nucléaire français ne résisterait au crash d'un avion de ligne. Certaines centrales sont même vulnérables à un simple tir de lance-roquette. Une arme pourtant relativement courante dans le milieu du grand banditisme. Tous les ans, la police en saisit une dizaine. Il y a un grand tabou de la sécurité des centrales nucléaires. Malgré les risques et la vulnérabilité évidente des installations, l'État n'évoque quasiment jamais cette menace. La raison est simple. Protéger toutes les centrales nucléaires de France d'un crash d'avion de ligne est bien trop coûteux. Il n'y a déjà pas assez d'argent pour démanteler les centrales vieillissantes. Alors pour les protéger, pensez donc. Résultat le plus simple... C'est tout simplement de ne pas en parler. C'est la politique de l'autruche, ça s'appelle. Et le cas le plus emblématique, c'est l'histoire de l'usine de la Hague. Lagues dans le Cotentin, Lagues en Normandie, la plus grosse usine de retraitement des déchets nucléaires au monde. C'est la poubelle des réacteurs nucléaires français, mais aussi étrangers, les Belges, les Allemands, les Suisses, les Japonais, etc. Elle abrite plus de 10 000 tonnes de matière radioactive. Ces déchets restent radioactifs et extrêmement dangereux pendant des centaines, voire des milliers ou des dizaines de milliers d'années, comme le plutonium, 24 000 ans de demi-période. Pourtant, l'usine est très insuffisamment protégée contre le risque terroriste. Ces déchets radioactifs les plus dangereux ne sont protégés que par de simples toits en tôle. Si un avion de ligne venait à s'écraser, il pourrait conduire à un relâchement de radioactivité dont l'impact équivaudrait à plusieurs dizaines de fois celui de l'accident de Tchernobyl. Soit potentiellement la plus grande catastrophe nucléaire civile de tous les temps. L'exploitant du site de La Hague se défend en indiquant que le survol du site est interdit. Interdit aux terroristes. On croit rêver. Le survol de New York aussi est interdit. Ça n'a pas empêché les terroristes du 11 septembre de se précipiter avec leurs avions dans les tours jumelles. Et si les activistes de Greenpeace étaient des terroristes? La grande chance qu'on a avec les terroristes, c'est qu'ils sont très mal formés. En 2017, les militants de Greenpeace ont réussi à s'approcher à quelques mètres des piscines de refroidissement de La Hague pour y déclencher un vrai feu d'artifice. Avec des explosifs et les armes en circulation dans le milieu du grand banditisme, ils auraient pu causer des dégâts considérables. C'est une chance qu'ils préfèrent défendre les pandas. Et vous pouvez voir l'excellent reportage d'Arte sur le sujet sécurité nucléaire, le grand mensonge. Alors je vais pas vous lire le lien, c'est pas passionnant, mais je vous le mettrai sur la page de podcast. Bon, en gros, ça s'appelle sécurité nucléaire, le grand mensonge. Tout ça est relié par les tirets du 6. Vous allez retrouver ça facilement. On m'a promis une doc prochaine sur les meilleures techniques de protection en cas de problème nucléaire. Alors là aussi, je vais vous mettre le lien sur la page de podcast. Et je remercie chaleureusement Antoine de l'association Apprendre, Préparer et Survivre, qui m'envoie plein de docs épatantes. Et je vous mettrai aussi les 7 liens qu'il m'a ajoutés sur ce problème qui nous concerne tous. Et puis, maintenant je vais vous mettre une petite rediff de contre-histoire qui date de novembre 2019. Je l'avais composée juste après le tremblement de terre du Teil en Ardèche. Vous avez oublié peut-être. Eh bien, raison de plus pour s'apercevoir et se rappeler à quoi on a échappé.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés.
Bonjour tout le monde. Un séisme d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter a gravement touché la ville du Teil, en Ardèche, en face de Montélimar, à une dizaine de kilomètres des réacteurs de Cruas. Il y en a 4 quand même. À une trentaine de ceux du Tricastin et à une quarantaine du site nucléaire de Marcoule qui, facteur aggravant, y reçoit
et conditionne le plutonium destiné aux réacteurs MOXIE, c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles de fonctionner avec du plutonium, j'allais dire remasterisé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, avec du plutonium trituré pour ça. Voilà. C'est le séisme le plus important survenu en France en 16 ans. Au-delà des victimes, un mort et des blessés, les habitants de la région se sont immédiatement inquiétés du risque de catastrophe atomique et de l'état des centrales nucléaires. Et nous donc? Alors, je vous ai réuni quelques documents des associations les plus vigilantes, la plus pointue, en l'occurrence, étant certainement le CRIRAD. Alors voilà le communiqué du CRIRAD du 12 novembre. Conséquences du séisme du 11 novembre 2019 sur la sûreté des installations nucléaires de Cruas et du Tricastin. L'épicentre du séisme de magnitude 5,4 intervenu un peu avant midi, le 11, en vallée du Rhône, est situé à environ 13 km de la centrale de Cruas et 28 km de celle de Tricastin. Les autorités et les industriels du nucléaire se sont voulus très rassurants en indiquant qu'il n'y avait pas eu de conséquences notables sur la sûreté de ces deux sites. Les autorités ont annoncé hier soir que les réacteurs de la centrale de Cruas étaient cependant mis à l'arrêt pour des examens plus approfondis dans la mesure où l'un des capteurs du site avait enregistré un niveau d'accélération supérieur aux critères d'intervention. Dès l'annonce du séisme, la CRIRAD s'est mise en situation de vigilance renforcée. Elle peut confirmer que ces balises de surveillance en continu de la radioactivité atmosphérique en vallée du Rhône, Valence, Montélimar, Saint-Marcel-d'Ardèche, Avignon, n'ont mis en évidence aucune contamination ou élévation anormale du rayonnement ambiant. Pour plus de détails, vous pouvez aller voir le site des balises CRIRAD. Hein. Vous cherchez CRIRAD et vous aurez tout ça sur un plateau. Cependant, les recherches qu'elle a effectuées ces dernières années ont conduit la CRIRAD à s'interroger sur la protection réelle des installations contre le risque sismique. Tout d'abord parce que des défauts de tenue au séisme sont identifiés régulièrement sur les équipements de très nombreux réacteurs. Les anomalies sont souvent découvertes de façon fortuite et datent souvent de plusieurs années, voire de décennies, remontant parfois à la construction de l'installation. Elle n'avait été identifiée ni par l'exploitant, ni par les contrôleurs ou leurs experts. Sont en cause des défauts de conception, de réalisation, de surveillance, des défauts de prise en compte, de configuration à risque. Je vais vous faire une petite pause musicale. On va retrouver Django Reinhardt, dont j'ai grand besoin. Thank you. toujours sur Canal Sud. On raccroche les wagons du commentaire de la CRERAD à propos du séisme sur la zone de la vallée du Rhône, du cœur nucléaire de la France. Alors, on en était à lister les anomalies souvent découvertes de façon fortuite qui datent de plusieurs années, et en particulier des défauts d'ancrage, de fixation probablement, des défauts d'ancrage donc de certains auxiliaires des groupes électrogènes. Des auxiliaires, on ne peut pas fonctionner sans. Hein. Alors même s'il ne s'agit pas du groupe électrogène lui-même, si c'est ce qui lui permet de fonctionner, c'est grave. Défaut d'ancrage de certains auxiliaires des groupes électrogènes d'ultime secours ont ainsi été détectés en 2017 sur seulement 26 réacteurs nucléaires. Cet équipement vital n'aurait pas résisté à un fort séisme entraînant la perte totale d'alimentation électrique. En 2019, la liste s'est allongée et ce sont désormais 48 réacteurs qui présentent ces anomalies, dont la gravité est classée au niveau 2 pour 37 d'entre eux. En 2017, étaient découverts également des problèmes de corrosion, susceptibles de conduire, en cas de séisme, à la rupture des tuyauteries et à l'inondation de la station de pompage, provoquant pour 20 réacteurs la perte totale de la source d'eau froide. Et ça vous donne des sueurs froides quand on se souvient que c'est le schéma de Fukushima. Pas moins de 10 réacteurs étaient concernés par ces deux anomalies, ce qui impliquait la perte simultanée du système électrique et du système de refroidissement. Même scénario qu'à Fukushima. Dans beaucoup de cas, les équipements n'auraient même pas résisté à un séisme maximal historiquement vraisemblable, ce qu'on appelle poétiquement le SMHV, a fortiori à un séisme majoré de sécurité, qu'on appelle poétiquement SMS. La détermination du risque sismique historique sur 1000 ans procède d'estimations et de calculs, plus rarement de mesures bien sûr. De plus, en remontant sur des milliers et des dizaines de milliers d'années, la paléosismologie a révélé l'existence de tremblements de terre d'intensité ou de magnitude très supérieures à celles révélées sur la séquence historique. Au-delà de la magnitude des séismes, il s'avère également que les effets de site ne sont pas forcément bien pris en compte. La réglementation est supposée tenir compte de l'avancée des connaissances, mais les processus sont très longs. Le séisme du 11 novembre vient réactiver ces interrogations. Sa magnitude 5,4 dépasse en effet largement celle de ce qu'on appelle le séisme majoré de sécurité 5,2, retenu pour le dimensionnement des dispositifs de tenue au séisme des sites de nucléaires du Tricastin et de Cruas. Alors la CRERAD demande donc une remise à plat complète du dispositif de protection contre les séismes, intégrant la publication des dossiers traitant de la résistance de chaque centrale et un état des lieux exhaustif de l'état des équipements directement ou indirectement concernés. Elle demande également que les centrales de Cruas et du Tricastin soient mises à l'arrêt de manière préventive compte tenu de la manifestation d'un séisme de magnitude nettement supérieure au séisme majoré de sécurité. Et ce commentaire est signé Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire, Corinne Castagnier, responsable de la réglementation radioprotection, et Jérémy Motte, ingénieur environnement à la CRERAD. Maintenant, on va se faire encore une petite pause parce que j'ai conscience que ce que je vous raconte, ce que je vous lis est plutôt pointu et si on n'est pas très branché sur le nucléaire, effectivement, je pense que vous aurez déserté. Tant pis, je crois que j'ai besoin de vous raconter ça, voilà. Alors, pour fixer les idées, il semblait qu'hier soir, la centrale de Cruas était encore arrêtée. Pour contrôle, évidemment. Bon. Et maintenant, je vais vous faire écouter un vieil enregistrement que j'ai sur un historique 45 tours de Steve Waring.
Elle m'a dit, dame la télé, il n'y a aucun danger, mais moi, je n'y crois pas. Car mon copain, le physicien, voilà ce qu'il m'a expliqué. Une poignée de plutonium, ça tue 1 million de bonhommes. Et tu sais, du plutonium, on en a déjà des tonnes. J'ai le blues de l'atmosphère, j'ai le blues héréditaire, j'ai le blues spectaculaire, le blues des centrales nucléaires. D'après monsieur le gouvernement, c'est pour faire du courant, mais moi, je méfie de ça. Car mon copain, le physicien, il m'a tout expliqué. Comment tous les militaires veulent des centrales nucléaires, car ça produit des matières pour faire les bombes atomiques super. J'ai le blues de l'atmosphère, j'ai le blues héréditaire, j'ai le blues spectaculaire, le blues des centrales nucléaires. Messieurs les journaux me disent, seul atome résout la crise, mais moi, je n'y crois pas, car mon copain le physicien, voilà ce qu'il m'a expliqué. Le rendement du nucléaire, c'est pas bon, ça coûte trop cher. Une centrale dure pas longtemps, au grand maximum 15 ans. J'ai le blues de l'atmosphère, j'ai le blues héréditaire, j'ai le blues spectaculaire, le blues des centrales nucléaires. Madame la radio m'a dit, c'est la seule source d'énergie, mais ça me fait marrer, car mon copain Michel m'a dit, il y a bien d'autres énergies. Le soleil et puis le vent, les marées, même les volants. Si on voulait bien les mettre au point, ce serait de l'énergie sans fin. J'ai le blues de l'atmosphère, j'ai le blues héréditaire, j'ai le blues spectaculaire, le blues des centrales nucléaires.
En voilà une belle archive de mémé, n'est-ce pas? Alors, maintenant, on va reprendre les commentaires du séisme et de ses conséquences avec le collectif Alto Nucléaire du Gard, qui écrivent avec Pierre Péguin le 14 novembre. La région du Bas-Rhône est une zone de risque sismique important. Sous la pression de la plaque tectonique Afrique sur la plaque Europe, la région est très fissurée, avec 3 grandes failles qui partent de la Méditerranée vers le nord de l'Europe et de nombreuses failles transversales. Il en résulte un grand risque sismique illustré par le séisme dévastateur de 1909 de Lambesque, en Provence, de magnitude 6,2. Notons aussi le séisme de Clansay en juin 1772 à 14 km de Tricastin, dont les répliques durèrent longtemps. En remontant sur des milliers et des dizaines de milliers d'années, la paléosismologie a révélé l'existence de tremblements de terre d'intensité ou de magnitude très supérieure à celle révélée sur la séquence historique. Nous ne sommes donc pas à l'abri de secousses bien plus fortes que celles prévues. Les réacteurs de Cruas et Tricastin ont été construits sur la base d'un risque sismique d'une magnitude de 4,7, avec une majoration de sécurité de magnitude 5,2. Cela nous paraît tout à fait insuffisant, la vallée du Rhône étant particulièrement exposée. Exposée à la vétusté des équipements aussi bien à Cruas qu'au Tricastin, et s'y ajoutent de graves défauts déjà identifiés, tels que les fissures des cœurs de réacteurs, les soudures des échangeurs de chaleur, la corrosion des circuits, ou même le risque d'indisponibilité des groupes électrogènes de secours dont on parlait tout à l'heure. Tout cela inquiète légitimement sur les possibles dégradations dues au tremblement de terre. Il n'y a pas que les bâtiments et les équipements des réacteurs qui peuvent être atteints par un séisme et mettre en danger leur fonctionnement. La rupture de barrages en amont, je vous avais parlé des barrages il y a au moins 6 mois, je ferai peut-être un rappel sur la page de podcast parce que c'était très important, très intéressant le lien à faire avec l'état de santé des barrages et la proximité des centrales nucléaires. La rupture de barrages donc en amont, la rupture de la digue le long du Rhône qui protège le Tricastin, peuvent avoir pour conséquence l'inondation des installations comme ça s'est produit à Fukushima. Cela a d'ailleurs été dénoncé par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire.
Thank you.
Comment est gérée l'activité du nucléaire suite au séisme? La centrale de Cruas comprend donc 4 réacteurs de 915 MW chacun et représente environ 5% de la production nucléaire française. EDF doit désormais procéder à son examen. Cruas 1 avait été stoppé début septembre pour des travaux de maintenance. Cruas 2, 3 et 4 ont été arrêtés dès lundi soir avec l'intention de les redémarrer dès vendredi. Mais EDF a averti ensuite que le redémarrage pourrait être retardé en raison de la durée du processus de contrôle en cours. EDF devra vérifier entre autres l'absence de fissures, de fuites au niveau des joints, voir si les ancrages ont été endommagés ou si les équipements ont besoin de nouveaux essais. Nous apprenons ce jour qu'EDF a prolongé les arrêts des 4 réacteurs et en prévoit les redémarrages échelonnés entre le 2 et 19 décembre. 2 réacteurs du Tricastin sur les 4 ont également été arrêtés, tandis que l'usine d'enrichissement GB2 n'est pas en fonctionnement, à Marcoule si je ne me trompe. Alors, questions et commentaires. Si au premier abord la magnitude de 5,4 dépasse la marge de sécurité fixée à 5,2, l'exploitant prétend qu'il ne faut considérer que les ondes de surface qui n'auraient atteint que la magnitude de 4,5. Attendons à ce sujet d'en savoir plus. Dès l'annonce du séisme, la CRIRAD, en situation de vigilance renforcée, a confirmé que ces balises de surveillance en continu de la radioactivité atmosphérique en vallée du Rhône, Valence, Montélimar, Saint-Marcel-d'Ardèche, Avignon donc, n'ont mis en évidence aucune contamination ou élévation anormale du rayonnement ambiant, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais on peut se poser des questions sur ce qui a été annoncé jusqu'à présent, ou pas, par EDF et l'ASN. Pourquoi le dépassement de seuil n'a été détecté que par un seul des 5 capteurs du site de Cruas? Quelle est la valeur détectée par ce capteur et par les autres? Alors là, ça va nous entraîner, si j'en ai le temps, à réfléchir à une autre hypothèse dont vous avez peut-être entendu parler, en particulier à propos d'un article paru sur Le Point, sur l'origine du séisme. Mais bon, pourquoi les réacteurs en fonctionnement au moment du séisme n'ont pas été arrêtés instantanément alors qu'un dépassement de seuil avait été détecté? Est-ce conforme aux règles de sûreté qu'un dépassement de seuil mesuré par un capteur sismique n'entraîne pas la mise à l'arrêt automatique des réacteurs du site? En voilà une question qu'elle est bonne. Et la gestion du réacteur Cruas 4 pose question. Il a fonctionné à puissance réduite, 360 à 420 MW, depuis le 13 octobre, avec des oscillations de puissance irrégulières. Le 9 novembre, entre 3h et 5h du matin, le réacteur a été mis à l'arrêt jusqu'au 10 novembre pour remonter en puissance jusqu'à 400 MW environ. Le 11 novembre à 17h, il a été arrêté progressivement. Que s'est-il réellement passé pendant près d'un mois pour que le réacteur numéro 4 fonctionne à puissance réduite avec cet arrêt en urgence? EDF faisait-elle des essais? Est-ce normal et autorisé par l'ASN de faire fonctionner un réacteur de 900 MW au tiers de sa puissance pendant une période aussi longue? L'ASN était-elle au courant? On ne peut donc décemment se contenter du message rassurant de ces dernières heures. Aucune incidence n'est à craindre, ni sur la production d'électricité, ni sur la sûreté des installations des centrales du Tricastin et de Cruas. Je crois que les gens de la région du Teil et d'Ardèche en général ont eu des problèmes de fourniture électrique. Je n'en suis pas, j'ai pas eu de confirmation, mais j'ai entendu parler de ça, et vous aussi sans doute. Cela nous montre une fois de plus qu'on frôle le risque de catastrophe atomique. Jusque-là, nous avons eu de la chance. Mais jusqu'à quand? Quand les décideurs comprendront-ils qu'ils n'ont pas le droit d'exposer les populations à de tels dangers? Ces dangers, imposés sans débat démocratique, ne se justifient pas. Ils imposent l'arrêt des vieux réacteurs de notre région, en extrême urgence. Pendant qu'il en est encore temps. Et maintenant, un petit enregistrement, toujours sur la deuxième phase de mon vieux vinyle. C'était la bande à Cabanel. Qui nous parle de Malville.
Malville, à cause de débiles qui dédient ici un monument à la folie. Ingénieur des villes, ingénieur débile, tu joues du sodium de Guillaume Tell avec sa pomme. Non, au nucléaire, nous ne nous laisserons pas faire. Les rues de nos villes brillent et illuminent pendant toute la nuit. Quel gaspillage d'énergie! Mais les dents qu'en berne, toi qui nous gouvernes, ça pourrait nous éviter de finir irradiés. Non, au nucléaire, nous ne nous laisserons. gouverne, éclaire nos lanternes, en nous opposant le nucléaire à la bougie. Pourtant la lumière viendra du solaire, de l'eau et du vent, quoi qu'en dise le gouvernement. Qu'on stocke, batte la breloque, et sur terre comme dans la mer, les conteneurs se sont ouverts, mais s'enfuir en douce, la mort sur la mousse, ça nous fera des enfants avec les yeux en face des dents. Amérique, pourtant hystérique, cherche d'autres solutions à l'abri des radiations. Oui, mais nous en France, prêts pour la souffrance, pour la connerie, on cherche toujours le premier prix. Non au nucléaire, nous ne nous laisserons pas faire. Avec ma bergère, au milieu de champignons qui ne viennent pas d'explosion, à 15 km de nos vies champêtres, des fous apprentis sorciers sont sur la branche qu'ils vont scier.
Je vais vous transmettre un texte qui a été rédigé par la Coordination antinucléaire du Sud-Est et écrit le 14 novembre, donc jeudi. Séisme, le document officiel qui déjà accusait EDF Cruas d'incapacité et de dissimulation. Le 12 novembre 2009, 10 ans avant le séisme qui a frappé non loin des centrales nucléaires, l'ASN avait adressé au directeur EDF Cruas le rapport d'une inspection ayant eu lieu le 9 octobre 2009. EDF n'était déjà pas préparé à faire face à un séisme. Pire, les bâtiments de commandement n'étaient pas assurés de résister à un séisme. Et aujourd'hui, alors que le directeur se démène pour manipuler la presse en organisant une visite des sous-sols, propres comme de la porcelaine, on est bien loin de cette réalité, avec les réacteurs du Tricastin, par exemple, qui pataugent, eux, dans l'eau, et une radioactivité hors norme. Dans ce document officiel qui accusait l'EDF en 2009, on peut lire en toutes lettres. Après la présentation par le site des dispositions prises pour faire face à un séisme, les inspecteurs de l'ASN ont vérifié la mise en œuvre de cette démarche par un exercice réalisé en salle de commande du réacteur numéro 1. À l'issue de cette inspection, il ressort un bilan mitigé. En effet, si le site a mis en œuvre une organisation pour le traitement des affaires relatives au génie civil, aux constructions, en particulier pour l'aspect spécifique de Cruas, que constitue sa construction sur des appuis parasismiques. En revanche, au travers de quelques exemples étudiés lors de l'inspection, les inspecteurs ont pu constater que le site n'a pas d'organisation spécifique prévue en cas de séisme. Cette inspection a fait l'objet de 3 constats d'écart notables. Et l'ASN de poursuivre, mais un peu tard, qu'il n'existe pas de document permettant de réaliser une analyse d'impact en cas de séisme. Les interlocuteurs du centre nucléaire de production d'électricité, donc de Cruas, ont affirmé ne pas pouvoir garantir qu'une équipe de crise pourra être organisée efficacement. L'ASN, qui tente de se couvrir, demande à EDF de mettre en place une organisation pérenne permettant de gérer la survenue d'un séisme sur le centre nucléaire de Cruas. Il est vrai que Cruas est la seule centrale nucléaire dont les réacteurs sont aux normes antisismiques. Aucun autre des 54 réacteurs disséminés sur le territoire ne le sont. Je répète, aucun autre des 54 autres réacteurs, autres que Cruas, hein, puisqu'on en a 58, hein, nous. Nous, les Français les plus forts en nucléaire, on en a 58. Et donc, les 54 autres réacteurs disséminés sur le territoire ne sont pas aux normes antisismiques. Pire encore, dans sa lettre de suivi d'inspection à EDF Cruas, l'ASN indique clairement que le bâtiment de sécurité, le bâtiment de direction où sont basés tous les postes de commandement, décision, etc., et les portiques permettant l'entrée et la sortie des zones contrôlées, ne tiennent pas au séisme. Cependant, aucune analyse n'a été faite en conséquence. En plus, EDF Cruas ne possède pas de liste des matériels et bâtiments secondaires en fonction de leur tenue au séisme. Tout comme pour les voies de communication, permettant le va-et-vient possible des véhicules de sécurité, d'intervention et d'évacuation. Face à cette cacophonie et fuite de responsabilité, face à cet amateurisme et mépris de la population et des salariés, l'ASN qui va piano demande gentiment à EDF d'analyser les conséquences que sont susceptibles d'engendrer les bâtiments et matériels censés ne pas résister. On ne se fâche jamais entre nucléocrates. Pour pouvoir parer à un tremblement de terre ou à une quelconque agression, il est indispensable d'anticiper la liste des éléments agresseurs qui pourraient tomber et causer du dégât, échafaudage, armoire, pupitre, etc., et de leur impact sur d'autres matériels en cas de chute. C'est une nécessité basique de sécurité. Une telle liste a bien été établie lors de l'examen de conformité de la zone, lors de la visite des 20 ans d'existence de la centrale de Cruas, et figure dans une base informatique. Or, comme c'est bête, les inspecteurs de l'ASN se sont rendus compte que personne sur le site nucléaire n'avait les mots de passe pour y accéder. Et de toute façon ne l'utilisaient pas, cette liste. Pour Cruas. Et c'est pas fini. Depuis 2005, Cruas est équipé d'une nouvelle base d'acquisition des mesures d'accélération sismique transmises par les accéléromètres situés sur le site. Mais personne sur place n'a pu affirmer à l'ASN que des essais physiques qui secouent l'accéléromètre, qui permettent de vérifier qu'un signal est capté et que la base déclenche bien au-delà du seuil prescrit, ont été réalisés. Moralité, à quoi ça sert? Je vous laisse deviner. Le risque sismique est un risque absolument majeur, tout le monde le sait. L'accident arrive et on regarde ailleurs, quoi. Voilà, merci de votre écoute et à très bientôt.
De dire ce que je pense, si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République.